Au début de cette homélie, je vous propose de nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Louis, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Voilà, au moment de mon départ, donc, je suis à la fois triste et heureux. Triste mais heureux. Triste parce que, comme j'ai pu l'écrire il y a quelque temps, j'ai vraiment aimé cette paroisse et ses paroissiens, parce que la paroisse, c'est pas une réalité en soi, hein, c'est les paroissiens. Ces paroissiens, je vous remercie pour votre aide, votre soutien, tout ce que j'ai pu vivre ici pendant 12 ans. L'idée de m'éloigner donc me fait de la peine, même si je ne vais pas loin, mais comme je le disais au début de la messe, eh bien, je ne serai plus le curé et je ne serai plus là le dimanche, où c'est le moment où je rencontre le plus de personnes. Voilà, triste de ce départ, mais ce départ est juste et il n'y a pas de raison que je puisse discuter. Et je suis alors en même temps heureux parce que ça permet de regarder le chemin parcouru en communauté et de beaucoup d'entre vous que je connais déjà depuis un certain temps. Et je ne peux que rendre grâce pour tout ce qui a été vécu pendant toutes ces années. Alors, je me suis dit, bon, et je ne vais pas me faire un discours sur moi-même, je vais dire qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui dans cette Eucharistie. Bien évidemment, je vais m'inspirer de la fête de Saint-Louis et des lectures de ce jour. Et je voudrais vous partager deux, trois éléments, sans être trop long, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Alors, l'Évangile d'abord. Hein, l'Évangile, on voit que beaucoup de disciples quittent Jésus. Alors, si vous vous souvenez, parce que c'est la suite des évangiles des dimanches précédents, en fait, le moment où les disciples quittent Jésus, c'est au moment où il leur parle du pain de vie, où il leur dit « mangez ma chair ». Et c'est tellement scandaleux pour eux qu'ils vont dire « cette parole est insupportable ». Et donc, ça nous rappelle combien l'Eucharistie, pour la vie de l'Église, reste à la fois, comme le dit le Concile, le source et le sommet de la vie des chrétiens, mais en même temps un lieu de véritable combat, y compris de combat dans la foi. Et je me réjouis, en voyant tout ce qui a été vécu liturgiquement sur cette paroisse, moi ça a été vraiment un lieu de bonheur, parce que je suis sensible à cet aspect liturgique, non pas parce que j'aime le cérémonial ou je ne sais quoi, mais parce que je crois qu'il y a un mystère divin qui nous est donné, un contact divin qui nous est donné, et que nous ne pouvons pas le brader. Nous devons le vivre avec tous nos sens, toute notre affectivité même, en nous émerveillant parfois, en nous lassant aussi à d'autres fois, avec toute notre affectivité, il y a... Voilà, et en essayant de percevoir Dieu, non seulement qui parle, mais qui nous touche et qui nous nourrit et qui nous transforme au final, qui nous sanctifie. Hein, nos frères orientaux considèrent vraiment que la liturgie est le lieu de la divinisation des chrétiens. Et après, dans la vie quotidienne, on en vit. Hein, ça transforme notre agir. Mais ce n'est pas notre action morale, volontariste, que l'on fait au quotidien qui nous transforme en premier. C'est d'abord la grâce de Dieu qui se communique par la liturgie et par l'Eucharistie en particulier. Et pour moi, c'était une grande grâce de pouvoir mettre en place, déjà depuis 10 ans, l'adoration eucharistique perpétuelle sur cette paroisse. Et je veux vous remercier parce que ça a été une des choses, finalement, les plus faciles à mettre en place sur la paroisse. Parce que les chrétiens, vous avez répondu à l'invitation à vous inscrire à l'adoration. Si vous n'aviez pas répondu, l'adoration perpétuelle ne se serait pas mise en place. Et je vous invite vraiment à soutenir le futur curé qui se réjouit d'avoir cette proposition sur la paroisse, mais qui en même temps ne l'ayant pas vécu comme moi dans la fondation et pendant 10 ans, en même temps, ne mesure pas ce que ça veut dire pour le curé, comment. Et je vous encourage vraiment à soutenir cela pour que l'adoration eucharistique perpétuelle puisse perdurer. Donc à encourager les inscriptions à l'adoration, à vous inscrire vous-même bien sûr, mais aussi encourager autour de vous, à soutenir le curé pour qu'il croit vraiment. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment quelque chose apparemment d'inutile dans une paroisse, parce qu'on peut très bien vivre sans l'adoration perpétuelle, pas sans l'adoration, mais sans l'adoration perpétuelle, telle qu'on le met en place ici. Et en même temps, c'est tellement inutile que ça porte beaucoup de fruits. C'est tellement gratuit que ça porte des fruits. C'est dans la gratuité qu'on porte vraiment du fruit. C'est quand on rentre dans la gratuité qu'on porte du fruit. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à soutenir le curé qui sera de bonne volonté, mais qui va découvrir tout cela. Et c'est vrai qu'il va falloir que régulièrement, il y ait des appels qui soient faits à l'inscription à l'adoration, comme j'ai pu le faire, comme certains paroissiens l'ont fait. Et il va falloir continuer là-dessus, et c'est parfois assez pénible, parce que certains disent « Oui, ben, il n'y a pas assez d'adorateurs de nuit, comment on fait ?» J'ai toujours dit deux choses, c'est que c'était l'affaire de la Vierge Marie, que pour moi, c'était d'abord un don de Dieu, que la Vierge Marie était pour quelque chose, et puis ensuite, qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc c'était un pas dans la foi aussi, et les gens s'inscrivent. Voilà. L'évangile nous invite aussi à un deuxième aspect, c'est qu'on voit que des disciples quittent Jésus parce que il va trop loin, Jésus. Il dit « mangez ma chair, le pain de vie », voilà. Et il va trop loin, et de même qu'il ira trop loin sur la croix, etc. Mais l'Eucharistie, c'est vraiment quelque chose qui nous fait aller plus loin même, c'est la croix jusqu'au bout. Hein, d'ailleurs, nos frères protestants, eux, qui ne nient pas du tout la croix et la résurrection de Jésus, eh bien, disent « l'Eucharistie, ce n'est pas nécessaire, un symbole suffira. » Un symbole. Nous catholiques, affirmons que non, Dieu se donne, il se donne au-delà même de ce qu'on peut imaginer, au-delà du raisonnable, il se donne jusque dans l'Eucharistie, qui rend présent le sacrifice de Jésus, se rend présent aussi dans les saintes espèces du pain et du vin. Et donc ils partent parce que il va trop loin, Jésus. Les disciples partent. Et ça nous rappelle quelque chose d'important et que j'ai cherché à vous transmettre pendant que j'étais auprès de vous. C'est que la foi porte une radicalité en elle-même qu'on n'a jamais atteint. Et on est toujours tenté de attiédir la foi. On est toujours tenté de la ramollir, de l'adapter à ce qu'on est. Et en même temps, notre foi, c'est pas un traditionnalisme qui ferait qu'on regarde toujours derrière en disant « hier c'était mieux », parce qu'en fait c'était sans doute pas vrai. Mais c'est surtout une radicalité de l'amour, une radicalité de l'Évangile. On essaie de radicalité d'écoute de l'Église. On essaie de suivre Jésus, même dans les domaines où on est moins motivé. C'est moins facile pour nous. Et cette radicalité-là, il faut la garder, il faut toujours la chercher. Hein. Et d'ailleurs, Saint-Pierre dit pour nous, à qui rions-nous, Jésus ? À qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est lui que nous devons suivre, c'est lui qu'il faut mettre au centre. Je me souviens au début, quand j'ai pris la paroisse au début, j'avais dit cela, nous allons commencer par essayer de mettre Jésus au centre de notre communauté, et pas les prêtres ou je ne sais pas qui. C'est Jésus qui doit être le maître et le premier. Voilà, et c'est une radicalité de l'amour qu'il y a derrière. Et je vais, bien sûr, citer Thérèse de Lisieux. Parce que sinon, vous me l'auriez reproché, je le sais. Parce qu'après, vous serez peut-être privé, hein, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui ferai les homélies. Il y en a d'autres qui vont en être gavés, par contre. Je ne vous dirai pas lesquels. Voilà. Et je vais citer un paragraphe d'un poème de Thérèse, « Vivre d'amour ». Parce qu'elle dit, elle dit la radicalité de la foi. « Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde. » Le monde autour de nous, il nous dit « Non, c'est exagéré votre affaire. »« Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde. Allez, cessez de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. » Faites autre chose que d'aller prier, ça veut dire cela aussi. T'aimer Jésus, quelle perte féconde! tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde, je meurs d'amour. Voilà. Numéro 13 de Vivre d'amour. Puis après le 14, je vous conseille de le lire, c'est pas mal aussi. Voilà. Un autre aspect, mais je vois que le temps passe, un autre aspect, c'est la fête de Saint-Louis. La Providence a voulu que je célèbre cette dernière messe le 25 août, qui tombe à dimanche. Voilà. C'est pour moi une joie de célébrer en l'honneur de Saint-Louis, parce que Saint-Louis est un laïc qui est devenu un grand saint. Non pas parce qu'il était roi, il n'est pas saint parce qu'il est roi, parce qu'il y a plein d'autres rois qui ne sont pas de saints, hein. Il y a même beaucoup de rois qui sont loin d'être saints. Mais voilà, c'est un saint. C'est un saint, il était roi, c'est par sa vocation. Je pense aussi à Saint-Louis-Zélie Martin, dont on a de belles reliques qui sont arrivées pendant que j'étais aussi là, hein, grâce à mes petites relations sur Lisieux. Voilà, des belles reliques qu'il ne faut pas garder, qu'il ne faudra pas oublier. Et puis aujourd'hui, comme je vous disais, le bienheureux Henri Planchat, qui est arrivé il y a quelque temps, qui a été béatifié pendant que j'étais sur la paroisse, et Saint Jean-Paul II qui est arrivé, donc la Providence a fait qu'il arrive pour mon départ. Voilà. Et donc, je pourrais multiplier, mais ça rappelle quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'appel universel à la sainteté de tous. Et c'est vrai que si quelque chose m'a préoccupé, c'est l'évangélisation et la sanctification des chrétiens. L'évangélisation de ceux qui sont loin et la sanctification. C'est quelque chose que je vous souhaite, le plus beau cadeau de votre vie, que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est de devenir des saints. Tout le reste, j'ai lu pendant mes vacances le livre de Coëlette dans la Bible. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Sauf Dieu et sauf la sainteté qui nous lie à Dieu. Mais on le vit dans son état de vie. Il ne s'agit pas de fuir le monde ou fuir notre état de vie. Saint Louis était un père de famille exemplaire. Il était pieux, père de 11 enfants. Il s'est marié avec Marguerite de Provence. Et ils seront vraiment un modèle de couple amoureux, soudé. Saint Louis a été fidèle à sa femme, alors qu'il était roi, et Dieu sait, on le voit encore dans les hommes qui ont du pouvoir, Dieu sait comment c'est tentant d'aller voir ailleurs. C'est un bel exemple pour les pères. Saint-Louis était travailleur et pieux. Les deux ensemble, ça ne s'oppose pas. Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on ne prie pas, ou qu'on prie beaucoup qu'on ne travaille plus. On peut être travailleur et pieux. Il saura allier le sens du devoir et du travail consciencieux avec une vie spirituelle et une prière intense. Il se confie à Dieu pour tout. Très fidèle à l'Église aussi. Saint-Louis était soucieux des pauvres. Il les a servis. Il s'en est beaucoup occupé. Je ne vais pas détailler. Il était soucieux aussi de l'évangélisation de notre pays, hein, puisque c'est lui qui a permis que le pays soit beaucoup plus quadrillé par les monastères, etc. Donc c'était dans sa vocation de roi, mais voilà, chacun, on a aussi cette vocation de missionnaire et de souci des pauvres. Il était vraiment engagé au service de la cité, bien sûr, par vocation, mais c'est avant tout un vrai sens, il avait un vrai sens du bien commun et de l'importance de la vie politique. Et je vous encourage vraiment sur ce chemin de l'engagement politique, même si c'est difficile. Cela rappelle l'importance de la vie chrétienne, engagée au service de la cité. Prions pour notre pays et prions pour nos dirigeants. Voilà, et je veux terminer, parce qu'il faut terminer, puis c'est déjà très très long. Enfin bon, je suis dans les clous de ce que j'ai fait d'autres fois. Je termine, non pas par Thérèse, mais par le curé d'Ars. Parce que je voudrais exprimer une très belle prière du curé d'Ars, de la faire mienne, et vous inviter, si vous le souhaitez, à vous unir à cette prière. Je vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'il n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroire mon amour et de le perfectionner. Amen. Et bien sûr, je vais quand même terminer par une citation de Thérèse. Ne craignez pas d'aimer trop la Vierge Marie, vous ne l'aimerez jamais assez. Je vous invite à continuer à cheminer à Jésus par Marie et soyez saints. Amen.